Chapitre 30. Maintenant, elle n'avait plus qu'à achever ce qu'elle avait si heureusement commencé. « Je ne veux pas, dit-elle, que vous puissiez éprouver pour notre enfant les doutes et les angoisses qui vous ont si cruellement tourmenté à propos de Denise. Celui-là, vous savez qu'il est bien à vous, et vous avez cette suprême joie de pouvoir vous dire, avec une foi absolue, que vous seul pouvez en être le père. » Alors que j'espérais être enceinte, mais sans avoir cependant la certitude de ma grossesse, je me disais que cet enfant viendrait au monde dans ce château, que vous-même vous le recevriez dans vos bras, que vous entendriez son premier cri. « Mais cela sera ainsi, dit le marquis en l'interrompant. Une séparation entre nous est maintenant impossible. Elle serait un crime. » Est-ce que, si j'avais connu cette grossesse, je me serais laissé entraîner par les instances de Gilet? Est-ce que je me serais laissé toucher par les exhortations du bon M. Marbeuf? Lui-même, d'ailleurs, s'il avait su la vérité, aurait changé de langage. Peut-on ordonner à un père d'abandonner son enfant? Pour moi, je n'abandonnerai pas le mien. Nous chercherons, nous trouverons comment expier nos fautes. Mais ce serait en commettre une nouvelle que de penser à nous avant de penser à cet enfant. Lui, lui d'abord, nous ensuite. » Comme elle le regardait sans parler, il s'arrêta. « Ne sentez-vous pas comme moi, s'écria-t-il, que cet enfant réunit nos deux existences par un lien indissoluble ? Je sens que vous êtes redevenu le marquis de Rudemont, l'homme noble, généreux, grand, que j'aimais. » « Au projet que vous formiez, je ne vois qu'un changement à apporter, mais il est capital. Il ne faut pas que notre enfant naisse dans ce château. » « Vous voyez bien que telle n'est plus mon espérance, puisque précisément je suis ici pour vous demander de me fixer la maison dans laquelle vous voulez que je me retire. Vous vous retirerez là où je me retirerai moi-même. Le lieu importe peu, puisque nous l'habiterons ensemble. Il faut seulement qu'il soit bien caché. » Vous devez comprendre que notre enfant ne peut pas naître en France, où il aurait pour père le capitaine Beaujonnier, puisque légalement, vous êtes Madame Beaujonnier. Il naîtra donc à l'étranger, où je le reconnaîtrai. Cela est possible, à cette condition qu'on ne connaisse pas votre grossesse, et personne ne la soupçonne, n'est-ce pas ? Oh, personne, je vous le jure ! Comment cela serait-il, puisque ce matin, je n'avais aucune certitude à ce sujet ? Eh bien, vous ferez tout pour la cacher, jusqu'au moment où il sera impossible de la tenir secrète. Ce jour-là, nous quitterons Rudemont. Nous disparaîtrons sans qu'on puisse savoir où nous nous sommes retirés. Nous prendrons le premier nom venu. Votre accouchement se fera dans une grande ville, à Londres, à Vienne, à Naples, pour qu'on ne puisse pas le découvrir. Et là, comme vous l'aviez espéré, je recevrai notre enfant dans mes bras, j'entendrai son premier cri. « Ah, Arthur » s'écria-t-elle en joignant les mains dans un mouvement extatique. « Quant au reste, continua le marquis, quant aux déclarations légales à faire pour cet enfant, soyez tranquille, je saurai arranger toutes choses pour que, devant la loi, je sois son père d'une façon indiscutable si jamais quelqu'un voulait soulever des difficultés ou des procès à ce sujet. » Ce départ à l'étranger ne pouvait convenir à Clémence. Si elle était revenue de Sorrente à Rudemont pour échapper à l'accusation de captation, elle n'allait pas maintenant retourner à Sorrente ou autre part pour retomber sous la menace de cette même accusation. Mais elle ne jugea pas à propos de s'expliquer là-dessus. Avant que sa grossesse devînt apparente, elle aurait le temps d'aviser. Pour le moment, elle ne devait avoir souci que d'une chose, profiter des dispositions du marquis pour ressaisir sa puissance. Ses dispositions, au reste, étaient aussi favorables qu'elle pouvait le souhaiter. Ce n'était pas seulement de la joie qu'il éprouvait, c'était une sorte d'ivresse, un transport fiévreux. Tout en parlant, il lui prenait les mains et les embrassait. Des larmes roulaient sur ses joues. Parfois, les mots s'arrêtaient dans sa gorge, contractée par l'émotion. Alors il la contemplait, comme si ses yeux ne pourraient jamais se contenter de la voir. Avec la connaissance qu'elle avait de son caractère et de sa nature, Clémence ne se méprenait point sur les causes de cette joie. Sans doute, il était heureux de la grande nouvelle qu'elle lui annonçait, mais ce n'était pas seulement le sentiment paternel qui s'était exalté en lui. désespéré d'une séparation à laquelle il ne s'était résigné que sous la pression des influences qu'on avait eu l'adresse de faire agir sur lui, il se jetait avec emportement sur la main qu'elle lui tendait pour le ramener en arrière. Alors qu'il ne s'agissait que de lui, il avait écouté la voix qui parlait d'expiation et il avait consenti à la rupture d'une liaison coupable. Malgré le désespoir profond, malgré les douleurs de cette rupture, il avait persisté dans la résolution qui lui était imposée. Mais maintenant, ce n'était plus de lui seul qu'il s'agissait. Avant tout, il devait penser à l'enfant dont il serait bientôt père. Et les raisons qu'il n'avait pas su trouver pour justifier, devant sa conscience effrayée, un retour en arrière, lui étaient maintenant imposées de telle sorte qu'il ne pouvait pas ne pas les écouter. Ce n'était point à sa maîtresse qu'il revenait, c'était à la mère de son enfant. Si, la veille, sa conscience avait pu lui commander de rompre avec l'une, cette même conscience, aujourd'hui, lui faisait un devoir de s'attacher à l'autre. De là son bonheur. Pendant longtemps, il parla de ses projets pour cet enfant et il mettait tant de feu dans ses paroles que c'était à croire qu'il était redevenu l'homme d'autrefois. Quant à Clémence, sans dire un seul mot de l'avenir, elle se tenait dans le passé et parmi le détail circonstancié, elle insistait sur cette paternité. Elle voulut même aller chercher un calendrier pour fixer dès maintenant, d'une façon certaine, le jour de son accouchement. Ce sera un lundi, un 14. Quelle heureuse coïncidence! Précisément, jour et date étaient ceux de sa propre naissance. Les heures passèrent vite dans cet entretien. Cependant, il y avait un point que Clémence n'avait pas encore touché, mais qu'elle n'avait garde d'oublier. C'était celui qui s'appliquait à Louis et à Denise. Lorsqu'elle jugea le moment favorable, elle aborda cette question. Quand je me suis décidée à venir près de vous pour vous parler de notre enfant, dit-elle, je n'ai point imaginé que notre entrevue pourrait avoir la conclusion que vous m'imposez. Puisque vous vous étiez décidée à une séparation, il me paraissait impossible que vous puissiez revenir sur votre résolution. Mais puisqu'il en est autrement, je vous demande la permission de vous dire à quelles conditions j'accepterai le rapprochement que vous désirez. Des conditions ? Sans doute, il peut vous paraître étrange que je parle de conditions à un homme généreux et grand comme vous. Mais l'une de ces conditions doit me donner le repos, et l'autre, ce qui est autrement grave, doit assurer votre tendresse entière à notre enfant. Dans ces circonstances, vous me pardonnerez donc. La première de ces conditions, c'est que vous ne rompiez pas avec votre cousin Louis. Ma vengeance envers lui sera une conduite absolument opposée à la sienne. Il a fermé devant moi la porte de ce château, je veux l'ouvrir devant lui. » Le marquis fut profondément touché par cette preuve de générosité. « Ah, comme Louis la connaissait mal !»« Ainsi, continua-t-elle, il est entendu que vous ferez tout ce qui sera possible pour retenir M. Louis près de vous, et en agissant ainsi, ce ne sera pas seulement un témoignage de tendresse que vous me donnerez, ce sera encore une précaution utile que vous prendrez pour notre enfant. Il peut être bon que M. Louis soit bien convaincu que je ne suis pas enceinte. Vous êtes la meilleure des femmes, dit-il, et la plus intelligente. Quant au second point, continua-t-elle, il est plus délicat et je reconnais qu'il vous sera douloureux. Aussi est-ce presque malgré moi que je vous l'impose, mais je croirais être mauvaise mère en faiblissant devant la crainte de vous peiner. Vous voyez, mon ami, que je suis déjà obligée de partager mon affection et ma sollicitude entre vous et notre enfant. Ce que je désire, ce que je demande, laissez-moi ajouter, ce que j'exige, c'est que Denise reste au couvent. Mais elle ne veut pas être religieuse, j'ai la preuve qu'elle aime Louis. Je ne demande pas qu'elle reste au couvent toute sa vie, rassurez-vous. Vous ne me verrez jamais vous demander une chose absurde ou coupable. Si Denise ne veut pas être religieuse, elle ne le sera pas. Si elle aime M. Louis, elle l'épousera. Cela est parfaitement juste et vous devez vous souvenir que c'est d'ailleurs ce que j'ai toujours dit. Cependant, ce que je demande, c'est que Denise reste au couvent jusqu'à la naissance de notre enfant et si j'insiste sur cette condition, c'est parce que je suis jalouse d'elle. Oh, cela, je l'avoue franchement. Jusqu'à ce jour, j'ai eu pour elle la plus vive tendresse et 100 fois je vous ai parlé de mon affection. Mais ce qui s'est passé ici en mon absence m'a ouvert les yeux. C'est au nom de Denise qu'on est intervenu auprès de vous. Est-ce vrai cela ?
Il est vrai qu'on m'a parlé d'elle.
Il est vrai aussi, n'est-ce pas, que c'est en réveillant votre affection pour elle qu'on est parvenu à vous faire écrire cette lettre qui me chassait d'ici ? Tendresse contre tendresse, c'est ainsi, j'en suis certaine, que la lutte a été engagée et j'ai succombé.
Croyez-vous donc que j'ai cessé de vous aimer ?
Non, mais je crois qu'on vous a dit que la tendresse de Denise pour vous remplacerait la mienne et que, dans cette promesse, vous avez trouvé une sorte de consolation. Eh bien, je serais une mauvaise mère si je permettais qu'on employât contre mon enfant les mêmes armes dont on s'est servi contre moi. Quand vous aurez vu votre fils, quand il vous aura souri, oh, alors, peu m'importe. Par lui, nous serons l'un et l'autre invulnérables. Alors, Denise, tant que vous voudrez. Mais jusque-là, j'ai peur d'elle. Oui, mon ami, peur, une peur affreuse. Oh, je vois combien sont habiles ceux qui conspirent ma perte, et je sens combien cette pauvre Denise, innocente de tout en réalité, serait dangereuse entre leurs mains. Si vous voulez que je ne passe pas ma grossesse dans l'angoisse et dans la fièvre, accordez-moi cette grâce que j'implore à genoux. D'ailleurs, que ferions-nous d'elle quand nous partirons ?
Mais d'ici là, elle serait mariée.
Et d'ici là aussi, elle amènerait peut-être une nouvelle rupture entre nous. Le marquis voulut se défendre et défendre Denise.
Denise ou moi ? Répéta Clémence.
Ce fut Denise qui, à la fin, succomba. Il fut donc convenu que le marquis prierait Louis de ne pas rompre des relations qui lui étaient chères et qu'en même temps, il lui accorderait la main de Denise, mais à condition que le mariage ne se ferait que dans quelques mois.